France Culture.
Les Midis de Culture poursuivent leur chemin littéraire. Soyez les bienvenus autour de notre table. À 13h, Anne Serre viendra nous parler de ses carnets qui viennent de paraître. L'occasion d'évoquer ses lectures et son parcours dans l'écriture. Mais avant, c'est l'heure de retrouver Sophie-Catherine Gallet. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Demain aura lieu une ultime journée de négociation entre les syndicats et le patronat autour des économies possibles au sein de l'assurance chômage. L'une des propositions des organisations patronales porte sur le régime de l'intermittence, proposant d'augmenter le plafond du nombre d'heures travaillées nécessaires pour bénéficier de ce régime spécifique. Mais quelle est justement l'histoire de l'intermittence et quelles seraient les conséquences de cette augmentation? C'est notre dossier du Point Culture du jour. Serge Proust, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes maître de conférences émérite en sociologie à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et vous avez publié en 2024 l'ouvrage « Les intermittents, 35 ans de lutte » aux presses universitaires de Lyon. Alors, il faut sans doute commencer par le début et retracer cette histoire du régime de l'intermittence qui est une spécificité française. Est-ce que vous pourriez nous dire quand et comment est apparu ce régime, suite à quel constat ?
Alors, si on remontait très loin, on pourrait dire qu'il y a eu une première esquisse du régime dès les années 30 pour les techniciens du cinéma. Si vous voulez, le régime, il est indissociable de ce qu'on appelle une économie du projet. L'économie du projet, c'est par exemple dans le cinéma, vous rassemblez une équipe, le temps de la production d'un film ou d'une pièce de théâtre. Et donc, dans cette économie du projet, vous n'avez pas forcément besoin d'employer les salariés, techniciens et à plus forte raison, entre guillemets, artistes, pendant 12 mois. Donc voilà, l'économie du projet nécessite d'avoir une équipe sur un temps donné, mais aussi des gens qui se connaissent bien, qui ont l'habitude de travailler ensemble et auxquels vous n'avez pas l'obligation de répéter pour la xème fois que ça, il faut faire ci comme ça, que tel lieu a cette contrainte, que je sais pas, la cour d'honneur du Palais des Papes, eh ben vous pouvez pas monter les décors n'importe comment, etc., etc. Bien. Donc voilà, dès l'émergence, le développement du cinéma en France, on se pose cette question. Donc il y a une première esquisse. Mais, si vous voulez, la véritable transformation, la véritable mise en place du régime, elle commence à partir de deux décisions, deux dates importantes. La première, c'est que, à partir de 1959, se met en place un régime d'assurance chômage pour les salariés du secteur privé. Parce que jusqu'alors, puisqu'on était en situation de plein emploi, il n'y avait pas d'exigence de mettre en place un régime d'assurance chômage. Le deuxième moment très important, c'est 1969, où globalement, cette période-là, on reconnaît à un certain nombre de personnes le statut de salarié, c'est-à-dire les techniciens, les comédiens, les musiciens, puisqu'on ne peut être dans le régime de l'intermittence, qui sont des annexes au régime général de l'assurance chômage du secteur privé, donc on ne peut être dans ce régime que dans la mesure où on est reconnu comme salariés, même si ce sont des salariés très particuliers, puisqu'en général, par exemple, dans le domaine que je connais le mieux, le domaine du théâtre, vous avez des tas de gens qui sont salariés, mais qui sont en même temps employeurs de fait, puisqu'ils dirigent des compagnies théâtrales. Mais fondamentalement, on reconnaît la situation de salarié à un ensemble de personnes. Et ce salariat, il est davantage défini par défaut. C'est-à-dire le fait qu'ils ne sont pas inscrits sur au commerce, qu'ils ne sont pas reconnus comme des professions indépendantes. Et donc, par défaut, on leur reconnaît le salariat. Et donc, à partir de là, si vous voulez, le régime, pour aller vite, dans les années 70, alors on date pas de chiffres, mais parce que à l'époque ça n'intéresse personne, mais vous avez peut-être quelques centaines de personnes qui ont droit au régime. Parce que en plus, à l'époque, il fallait faire 1000 heures. Pour avoir droit au régime.
Et on va revenir à la question des heures. Le régime de l'intermittence est donc souvent considéré comme complexe. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer en quelques mots comment il fonctionne aujourd'hui, par quel principe il est régi ?
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a 200 pages. Parfois, l'UNEDIC produit des documents qui font 200 pages. Il y a deux traits fondamentaux. Ce sont ces deux caractéristiques qui expliquent la mobilisation, enfin les mobilisations des intermittents, pour aller vite, depuis les années 80. Premier critère, c'est combien de temps il faut cotiser au régime d'assurance chômage pour avoir droit aux prestations. D'accord? C'est-à-dire, actuellement, il faut le faire en 12 mois. Pendant toute une période, il fallait le faire en 10 mois pour les techniciens et en 10 mois et demi pour les artistes. Donc, premier indicateur, première dimension fondamentale, la durée d'éligibilité, en quelque sorte. Et deuxième indicateur, dans cette durée d'éligibilité, il faut avoir un minimum d'heures, d'accord ? Donc, 507 heures actuellement. Et donc, quand vous combinez les deux, eh bien, c'est pas exactement la même chose, hein. C'est-à-dire, à ce moment, il leur faut 12 mois et en faisant 507 heures, alors qu'à une certaine époque, par exemple pour les techniciens, il fallait 10 mois en 500, pour faire 507 heures, ce qui n'est pas la même chose.
Et donc, il y a quelques jours, le MEDEF a proposé que le régime de l'intermittence soit modifié suite à la volonté du gouvernement d'effectuer 400 millions d'économies sur l'assurance chômage. La proposition phare est donc de passer de 507 heures travaillées à 557 heures pour pouvoir renouveler ses droits au chômage, à ce régime. Alors, on pourrait penser d'un point de vue extérieur que travailler 50 heures de plus est relativement peu, mais dans le contexte grandissant de coupes budgétaires dans la culture, est-ce que cette proposition ne risque pas de fragiliser un tout petit peu plus encore l'écosystème du spectacle ? Quelles seraient selon vous les conséquences directes ?
Alors c'est encore un peu imprécis parce que c'est comme traditionnellement, c'est un peu une bataille de chiffres en quelque sorte, hein. Mais si vous voulez, vous avez beaucoup d'intermittents qui franchissent, pour différentes raisons, hein, qui seraient longues à expliquer, mais qui franchissent difficilement le seuil des 507 heures. Donc, qui vont être dans le régime à 510 heures, 520, 525. Bon, il y a plein de statistiques, hein, de l'UNEDIC là-dessus. Et puis d'autres chercheurs là-dessus. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous passez de 507 à 557 heures, alors, globalement, vous excluez du régime des milliers de bénéficiaires du régime. Alors, l'UNEDIC apparemment parle de 10 000 personnes, mais la CGT parle en ce moment de 30 000 personnes. Hein, 30 000 personnes, bon, on n'a pas encore le chiffre précis des bénéficiaires, mais c'est quasiment 30 000 personnes, c'est autour du quart actuel des bénéficiaires. Donc, vous voyez, ce serait une décision très, très importante.
Mmh. Alors, le régime de l'intermittence, ça concerne donc, on l'a dit, les artistes, les techniciens, les ouvriers du spectacle. Il est souvent mis en valeur comme étant partie prenante de l'exception culturelle française. Alors, comment ce régime, justement, contribue à cette spécificité de la culture en France ? Et quelles seraient, du coup, les conséquences de ce quart potentiel?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le régime est au cœur de la production artistique et de la diffusion artistique, mais vue de manière générale. Pour dire les choses brutalement, il n'y aurait pas le même volume dans le service public de l'audiovisuel, mais aussi dans les entreprises privées de l'audiovisuel. Il n'y aurait pas le même volume de production dans le théâtre public et dans le théâtre privé, et dans le cinéma, dans le court-métrage. Enfin, vous voyez, l'ensemble du secteur vit en partie sur le régime d'intermittence, parce que, pour parler comme un certain nombre de sociologues et d'économistes, on procède à l'externalisation des coûts, entre guillemets, des coûts salariaux, puisqu'une partie du coût salarial, en réalité, est assumée par le régime de l'assurance chômage. À une certaine époque, le ministre Jean-Jacques Ayagon disait que, dans le domaine du spectacle vivant, les prestations versées aux intermittents étaient l'équivalent du budget spectacle vivant du ministère. Donc, fondamentalement, ça contribue fortement à la force actuelle, à la fois du cinéma français, du théâtre français, de la place du service public, des entreprises privées, audiovisuelles, théâtre, etc., etc. Hein. C'est pour cette raison, hein, que l'essentiel des employeurs privés, publics, associatifs, alors, avec des variations et de manière plus ou moins explicite, hein, soutiennent de fait le régime, enfin en tout cas sont pour le régime. Il faut savoir qu'une grande partie des employeurs ne sont pas membres du MEDEF, à l'exception d'une grosse filière actuelle.
Merci beaucoup Serge Proust.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, on a appris la disparition de l'artiste Peter Stampfli.
Oui, figure importante du mouvement Pop Art, le peintre suisse est décédé à Paris à l'âge de 88 ans. Il s'est fait connaître à l'international grâce à son exploration de la voiture et du pneumatique à partir du milieu des années 60. Dans certaines de ses toiles, parfois monumentales, Peter Stampfli a peint le détail de pneus de voiture en jouant sur les formes géométriques répétitives autant que sur le contraste d'échelle. Il est allé jusqu'à interroger la limite physique de ses toiles en reproduisant sur le sol la trace de gomme laissée par le pneu au freinage. Tout au long de son œuvre, il aura interrogé cette forme à travers différentes techniques et formats pour pencher vers l'abstraction.
Et pour finir, le musicien Thomas Bangalter va participer au nouveau projet d'empaquetage du Pont Neuf.
Pour rappel, l'artiste JR a prévu d'emballer une partie du célèbre pont parisien du 6 au 28 juin prochain, reproduisant ainsi le geste du couple Christo et Jeanne-Claude qu'il avait empaqueté en 1985. Intitulée La Caverne, cette nouvelle œuvre prendra place sur la moitié du pont, qui va être transformée en une grotte accessible gratuitement durant toute la durée du projet. Thomas Bangalter, l'ex-membre du duo Daft Punk, va de son côté emballer l'installation d'une étoffe sonore afin de travailler l'acoustique du lieu.
Merci beaucoup Sophie-Catherine Gallet. On vous retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.